Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti ! Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chevaux Explorateurs. Aujourd'hui, je reçois Mélanie et on va parler ensemble de comment on construit des nouvelles pratiques pour plus de bien-être équin. Mélanie, je te laisse te présenter.
Bonjour Émilie et merci de m'accueillir sur ton podcast, je suis vraiment ravie. Donc je m'appelle Mélanie, j'ai 30 ans, aujourd'hui je vis principalement au Canada, après avoir voyagé pendant quelques années. Et donc j'ai un parcours dans le monde du cheval assez varié et qui a évolué de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je suis aujourd'hui ici pour vous parler un petit peu de mon histoire avec les chevaux.
Donc on va parler de bien-être équin. Est-ce que toi, tu as un moment où tu t'es dit, il y a un truc qui est important pour moi, l'importance du cheval et de l'individu et de ses émotions, quand tu es avec lui? Est-ce que tu as un moment où ça a commencé, où tu t'es dit, t'as eu un déclic, ou est-ce que ça s'est fait progressivement?
Alors, j'ai eu quand même un assez gros déclic. Donc, j'ai fréquenté depuis mon enfance, donc quand j'avais 6 ans, jusqu'à le début de l'adolescence à peu près, quand j'avais 14 ans, j'étais dans des centres équestres très traditionnels, où voilà, on pratiquait le dressage, le saut d'obstacle, j'ai passé mes galops, on était avec des chevaux qui vivaient en boxe, voilà, donc on n'était pas vraiment dans le bien-être équin. Et je me suis rendu compte que les chevaux étaient très stressés, qu'il y avait vraiment des comportements assez agressifs, des chevaux qui essayent de taper, qui essayent de mordre, qui se défendent, qui, dès qu'ils mettent un pied dehors, perdent pied complètement et sont très stressés. Et donc, à un moment donné, ça me convenait plus, et voilà, j'étais début de l'adolescence, et je commençais un peu à remettre en question ce qu'on me disait aussi. Je commençais à me rendre compte que le professeur d'équitation n'avait pas la science infuse forcément et qu'il y avait peut-être une meilleure manière d'être avec les chevaux. Et donc c'est là où j'ai changé en fait de structure équestre, où je suis allée dans un centre beaucoup plus petit où le bien-être équin était beaucoup plus pris en compte et que le mode d'hébergement était mieux et les activités qu'on faisait avec les chevaux étaient beaucoup plus dans le respect de leurs émotions et aussi des émotions de l'humain. Donc voilà, ça a été à partir de cet âge-là et de la découverte qu'on peut faire autrement. Donc là, j'ai découvert aussi le travail à pied, une monte sans mort, des chevaux qui n'étaient pas ferrés, qui passaient beaucoup de temps plus en troupeau. Et donc je pense que ça a été le premier déclic, je vais dire. Et ensuite, ça a été le début en fait d'un changement de point de vue et de découverte de plein d'autres pratiques qui vont dans le sens du bien-être équin.
Ouais, donc c'est quelque chose qui s'est progressivement... Mais l'adolescence, en fait, a été positive pour toi sur ce point-là, quoi.
Oui, vraiment, ça a été positif, oui, parce que j'ai remis en question et j'ai découvert à ce moment-là une autre manière de faire. Et je me souviendrai toujours de la première séance que j'ai faite dans cette nouvelle structure où elle m'a fait découvrir le travail en liberté, à pied et monté. Et j'ai fini la séance en pleurs de me dire... Donc c'était à la fois des pleurs positives, d'émotions de « Waouh, on peut faire ça, c'était génial, j'ai partagé un super moment avec le cheval. » Et d'un autre côté de « Oh, tout ce que j'ai fait subir aux chevaux avant, avec voilà, des équipements pas du tout adaptés, beaucoup de force, de contraintes en permanence. » Et en fait, non, on peut faire ça sans rien et dans un respect mutuel. Et ça a été très positif et en même temps... difficile d'admettre que j'ai fait ça pendant des années aux chevaux.
Ouais. C'est pas facile quand on a appris quelque chose et que derrière on se dit « Ah, en fait, j'aurais pu faire autrement, quoi. »
Ouais, c'est pas facile. Après, c'est... je pense que j'ai eu la chance de vivre ça quand j'étais adolescente et que j'étais vraiment en train de me construire et que, oui, j'avais déjà passé des années en centre équestre avant, mais voilà, j'étais pas encore adulte, j'étais encore en train de me construire sur ma manière de voir les choses. Donc, je suis contente que ça soit arrivé assez tôt quand même dans mon parcours.
Ouais. Ouais. Et du coup, t'as continué longtemps dans ce centre équestre-là?
Alors, ensuite. Oui, donc je suis restée une petite dizaine d'années, je pense, dans cette structure. Donc j'ai exploré énormément le travail à pied, en liberté. Et ensuite, en fait, on est parti au Canada avec mon compagnon. Et à la base, je pensais que ça allait être une pause dans mon parcours avec les chevaux. Parce que je voulais pas repartir sur... retourner dans un centre équestre très classique. Je voulais pas retourner en arrière et je savais que c'était difficile à trouver les structures où on prenait en compte le bien-être équin. Donc je me suis dit, c'est pas grave, ça va être une pause. Et finalement, j'ai rencontré des personnes qui cherchaient quelqu'un pour faire des choses avec leurs chevaux, passer du temps avec leurs chevaux, qui étaient très ouverts d'esprit et qui m'ont dit, nous, on cherche juste quelqu'un qui aime nos chevaux et qui partage des moments avec eux. Donc on était sur la même longueur d'onde là-dessus. Et c'est là que je me suis retrouvée toute seule, avec 3 chevaux, donc à la base je ne connaissais pas, dans un environnement qui est très différent, parce que finalement c'est des chevaux qui vivent à l'année en extérieur, dans un très très grand espace, qui sont aussi très grégaires, parce qu'ils vivent toujours tous les 3 ensemble, et qui ont plus ou moins de pratiques avec les humains, vraiment des profils très différents des chevaux de club que j'avais pu fréquenter avant, mais ça a été super enrichissant, et voilà, je me suis dit, bon, là, je suis toute seule, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais toujours été guidée, finalement.
Oui.
J'avais toujours eu des profs, en fait. C'était, j'arrivais au centre équestre, on me disait, bon, aujourd'hui, des fois, on me laissait le choix du cheval, mais c'était quand même, on fait ci, on fait ça, avec quand même une discussion, mais j'étais quand même guidée pour la séance. Et là, toute seule. Donc, là, j'ai fait beaucoup plus de recherches par moi-même de ce que je voulais faire. J'ai un peu tâtonné au début, j'ai un peu reproduit en fait ce que je faisais dans la dernière structure dans laquelle j'ai passé 10 ans, donc j'étais beaucoup sur du travail à pied, en liberté, en renforcement négatif, mais une approche quand même douce et à l'écoute du cheval. Et puis, j'ai eu l'impression à un moment donné d'arriver à une limite, et de me dire, bon, j'arrive à faire ça, mais il me manquait un petit truc. J'avais l'impression de pas réussir à créer une vraie relation avec les chevaux, et c'était vraiment mon but, là. Je me suis dit, ouais, j'ai 3 chevaux, je peux aller voir quand je veux, et que j'ai carte blanche sur ce que je fais avec eux. Pour moi, mon objectif premier, c'est, j'ai envie qu'ils soient contents de passer du temps avec moi, autant que moi je le suis d'être avec eux. Et voilà, j'ai envie qu'il y ait vraiment une motivation qui vienne d'eux, et je veux pas les forcer, vraiment créer une relation, c'était mon objectif premier. Et voilà, en creusant, en lisant, consultant des comptes sur Instagram, sur les réseaux, j'ai commencé à entendre parler de clicker training. Et bon, j'ai toujours été attirée un peu par les pratiques un peu nouvelles et qui vont dans le sens du bien-être équin. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va essayer. Et donc, j'ai essayé et en fait, ça a été le gros déclic. J'ai vraiment vu des chevaux qui avaient envie d'être avec moi, qui ne se sauvaient plus à l'autre bout du parc quand il s'agissait de faire une séance. Et voilà, avec l'œil qui pétille. Donc voilà, après, on était, je pense aussi, au début, dans un peu de frustration liée à la nourriture, parce que j'utilisais des carottes, donc très forte valeur. Donc je pense que c'était aussi pour ça, un petit peu. Mais voilà, tranquillement, on a réussi à construire une relation. Et voilà, je voyais que les chevaux étaient contents d'être là. Ils allaient d'eux-mêmes dans la carrière, parce qu'ils savaient que c'était l'endroit où on s'entraînait, on faisait des choses. Et ouais, ça a été le gros déclic, un deuxième gros déclic à ce moment-là, dans la pratique du clicker.
Donc c'est vraiment le côté, t'as testé et t'as vu l'effet, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai fait une première séance avec un des 3 chevaux. Voilà, séance de 5 minutes en contact protégé. Est-ce que toucher la cible, un peu de garder la tête droite quand je suis à côté de lui, sans que le cheval vienne envahir l'espace, etc. Et puis, je suis arrivée 3 jours après, et le cheval est venu directement me voir, et ensuite, il est parti en carrière, et il m'attendait de pied ferme en carrière en me regardant, genre, bah, c'est parti, là, on refait ce qu'on a fait la dernière fois. Et là, je me suis dit, waouh, ok, c'est ça que je cherche, en fait. Depuis toutes ces années, en fait, c'est ça, c'est que le cheval, il a envie de faire des choses avec moi. Et ça, je l'avais jamais vraiment trouvé avant. Voilà, cette envie, ce plaisir commun d'être ensemble, en fait, dans des activités où vraiment il y a un échange, on essaie de faire des choses, pas juste passer du temps au pré ensemble, mais vraiment dans l'action.
Ouais, c'est ça, c'est te dire, quand on travaille, en fait, il est content de travailler.
Ouais, exactement, il est content de travailler.
Et du coup, comment t'as développé ça par la suite? Où est-ce que t'as eu envie d'aller une fois que tu t'es dit, ok, mon cheval est content de travailler, maintenant qu'est-ce qu'on va travailler?
Ouais. Alors au début, j'ai repris un peu toutes les bases en clicker training. Donc, est-ce que tu peux marcher à côté de moi en liberté à mon épaule? Est-ce qu'on peut s'arrêter? Est-ce qu'on peut tourner? Voilà, j'ai repris un peu toutes ces bases-là. Et ensuite, je suis rentrée un peu dans le clicker training par tout ce qui est les petits tours. Un peu, est-ce qu'on peut mettre les antérieurs sur un pneu? Est-ce qu'on peut apprendre le sourire? Est-ce que, voilà, toutes ces petites choses que je trouve que c'est une porte d'entrée, entre guillemets, un peu facile avec le clicker. Parce que c'est des choses que les chevaux apprennent vite. Et c'est différent de tout ce qu'ils ont pu faire avant.
Ouais.
Et donc, pour eux, peut-être que c'est plus facile de comprendre que les règles du jeu sont différentes maintenant que sur des exercices qu'ils ont déjà fait dans le passé, qui étaient plus enseignés de manière coercitive. Donc, au début, je suis rentrée par là. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait des besoins, surtout au niveau de Pepper, donc un des trois chevaux dont je m'occupais, qui, tout ce qui était soins, c'était compliqué. Donc, que ce soit la prise du vermifuge, que ce soit le spray anti-moustique.
Ah, le spray.
Le spray, voilà, il le voyait à distance, et c'était déjà, je me sauve à l'autre bout du parc, et c'était même pas la peine d'entendre le pchit, et je savais que les propriétaires me disaient que c'était compliqué avec lui, qu'il fallait vraiment l'attacher, et qu'il était en panique à ce niveau-là. Et je me suis dit, avec le clicker, il y a moyen de faire quelque chose, c'est obligé. Et du coup, j'ai creusé à ce niveau-là et j'ai vraiment vu de super résultats. Et assez rapidement, j'étais épatée de la rapidité. Donc, par exemple, au niveau du spray, ça a été de lui redonner le contrôle un peu sur ce qui se passe. Donc, avec le start button, il touche le spray avant que le spray s'active, que le monstre s'active avec le pchit qui lui faisait vraiment peur. Et voilà, et au lieu d'avoir un cheval qui panique à la vue du spray ou au bruit, et ben voilà, on faisait ça en liberté, et j'avais un cheval qui au début était quand même un peu crispé, mais qui restait avec moi.
C'est déjà un gros progrès.
C'est déjà un énorme progrès. Et par la suite, voilà, sur la fin, j'arrivais à sprayer le corps entier, sans avoir, alors peut-être le premier spray un petit sursaut, quand même, mais de pouvoir sprayer le corps, et ensuite une récompense, et puis c'était fait, et puis on n'en parle plus, quoi.
Ouais.
Donc, là, ça a été un peu ma deuxième porte d'entrée dans le clicker.
Et t'as senti vraiment que sur le côté émotionnel, venir les soins coopératifs, ils faisaient pas juste pour avoir la récompense, mais que ça apportait plus, enfin aussi au niveau émotionnel ou pas?
Ouais, complètement. Je pense que ça lui redonnait du contrôle sur ce qui se passait, et lui, il avait vraiment besoin de ça. Besoin de savoir que s'il touchait pas la bouteille, ben, j'allais jamais activer le spray. Et il l'a touché, la bouteille.
Ouais.
Et voilà, c'était... Ça a tellement changé son émotionnel, c'était radical.
Ouais. Et ça, ça a été super vite.
Et ça a été rapide, oui, vraiment. On partait de très loin, quand même, avec un cheval qu'il fallait vraiment aller chercher, attacher, et après sortir le spray, sinon c'était même plus la peine, on pouvait pas l'approcher, et qui vraiment était dans la fuite et dans la panique, essayait de se cabrer et tout ça, quoi.
Ouais, quand même.
On était sur quelque chose de... Il avait vraiment peur de ça. Et donc voilà, en quelques semaines, avec des mini-séances, je pouvais le spray en liberté sans problème. Donc oui, pour moi, je considère que oui, c'était rapide.
Ouais. Ouais. Bah, quelques semaines, quand on passe d'un gros, une grosse peur, c'est génial, quoi.
Ah oui, vraiment, c'est... Ouais. Et là, je me suis rendu compte de la puissance du clicker training et du fait que oui, on peut apprendre des petits tours, etc., et que c'est rigolo et que ça permet un peu de créer du lien avec le cheval, qu'on est vraiment dans une optique, même nous, dans quelque chose... dans le jeu et pas dans un objectif très rigide, sérieux, mais on peut aussi aller plus loin et on peut aider le cheval dans ses émotions et dans la gestion du quotidien,
en fait.
Et ça, je trouvais ça incroyable.
Oui, c'est vraiment, t'es parti sur cette idée que le but, c'est d'aider le cheval plus que d'aider l'humain, quoi. Enfin, de faire ce que l'humain a envie de faire, mais vraiment sur l'optique de qu'est-ce que je peux apporter au cheval.
Oui, c'est ça. Et je trouve ça génial qu'on puisse aussi simplifier le quotidien de ces chevaux-là qui ont parfois des difficultés dans juste mettre l'école, d'accepter des soins mais courants, là aussi la prise des pieds. Donc eux avaient pas de soucis par rapport à ça, mais c'est aussi quelque chose qui peut être travaillé en clicker. Voilà, tous ces soins du quotidien qui peuvent être difficiles à gérer pour les chevaux et qui vivent ça tous les jours. On se dit, tous les jours, ils vivent du stress. Alors qu'en fait, avec du travail, de la patience, et on peut régler ça et on peut rendre ça plus facile pour le cheval. Mais au final, ça a des répercussions directes sur l'humain parce que avoir un cheval qui accepte les soins et même qui participe activement aux soins, c'est un bonheur, je pense. Ça simplifie tellement la vie. Et après, pour moi, une fois qu'on a ça, ces bases-là avec un cheval, qu'on sait qu'on peut manipuler, faire des soins sans problème, et ben après, le reste, c'est du bonus, en fait. Donc, on peut profiter de tout le reste. Et ouais, ça c'est vraiment un gros apport, je trouve, du clicker.
Et tout le reste, une fois que t'as construit ça, qu'est-ce que t'as envie de mettre dans tout le reste? Est-ce que t'es revenu sur ce que t'avais appris avant? Est-ce que t'as essayé d'autres choses?
Donc en fait, à un moment donné, quand j'ai commencé le clicker training et donc l'entraînement en renforcement positif, je me suis vraiment dit, ok, il faut que je perde perdre. Perdre, c'est un grand mot, mais que j'essaye de désapprendre et apprendre à mon cerveau et à mon corps d'agir différemment avec les chevaux. Et donc, perdre un peu l'habitude d'utiliser la pression à tout bout de champ Et ça, c'est un apprentissage aussi de notre, pour nous et pour le cheval, voilà, de comprendre que maintenant ça fonctionne différemment et qu'on peut communiquer de manière différente sans que tout le temps nous on soit en train de les mettre dans l'inconfort. Et donc ça, ça a été un grand apprentissage, ça a pris du temps. Voilà, après je me suis débarrassée aussi de certains outils qu'on utilise beaucoup quand on fait du renforcement négatif, donc notamment le stick. Donc là, c'était rangé au placard, on l'utilise plus. Et même le licol au début et la longe, je les utilisais plus parce qu'en fait, les réflexes reviennent trop vite quand « Oh ben le cheval s'éloigne, ah ben non, on veut le récupérer, ouais. Du coup on reprend la longe et... » Donc voilà, au début, c'était vraiment exclusivement de la liberté que j'ai fait avec eux, justement pour ne pas être tentée de revenir sur des anciens schémas que j'avais pratiqués auparavant. Après, je dirais que dans ce que j'ai gardé, ça va être plus moi dans ma gestion émotionnelle, de être capable de me poser, d'être dans l'instant présent, un peu de me vider la tête, de laisser à la maison ce qui doit être à la maison, et de quand je suis avec les chevaux, d'être présente, et de prendre le temps, moi, de me poser, de prendre le temps, un moment dans la séance, si je sens que les émotions montent trop, de faire une pause, de me poser, de réfléchir, et de pas être tout le temps dans l'action-réaction.
Ouais.
Donc ça, c'est quelque chose que j'avais développé, donc dans le second centre équestre que je fréquentais en France. Donc ça, je l'ai gardé. Vraiment ce côté plus gestion émotionnelle. Et au final, je trouve que ça se combine bien avec l'approche en renforcement positif parce que on est aussi, parfois même plus que dans le R-, je trouve. Nous, on peut ressentir de la frustration aussi. Et c'est un travail à faire aussi sur nous-mêmes d'accepter que le cheval nous dise non, sans nous le prendre personnellement. Et oui, la patience, en toutes ces choses-là. Donc ça, je l'ai gardé. Voilà, il y a des choses que j'ai laissées de côté et il y a des choses que j'ai gardées, les choses que je pensais qui seraient pertinentes dans une approche en renforcement positif.
Il y a un gros côté, oui, gestion de nos propres émotions en tant qu'humaine, c'est pas le plus facile.
C'est vraiment pas le plus facile, oui. Et ça, je trouve que ça génère vraiment des émotions différentes par rapport au travail en R-, quand on travaille en R+. Je trouve, on se retrouve confronté à des choses auxquelles on n'avait pas l'habitude avant. Donc notamment, des fois, un cheval qui est un peu qui peut être envahissant.
Ouais.
Comment gérer ça? Un cheval qui nous dit non. Comment gérer ça? Et c'est des choses qu'avant, en fait, on gérait pas tant parce que un cheval envahissant, c'était vite réglé. Et en général, les chevaux étaient pas trop envahissants parce qu'ils avaient pas tant envie d'être avec l'humain, finalement. Et le fait que le cheval dise non, en général, quand on est dans une approche plus traditionnelle, en fait, le cheval n'a pas le droit de dire non. Donc, du coup, c'est géré différemment. Donc, je trouve qu'on est vraiment dans des émotions différentes, mais qu'il faut apprendre à gérer aussi en tant qu'humain.
Oui, ouais, carrément. T'as une astuce à transmettre sur comment gérer ses émotions aux personnes qui nous écoutent?
Alors, moi, ce qui marchait plutôt bien, c'est qu'en début de séance, j'essayais toujours de me poser dans la carrière, dans l'espace de travail avec l'animal, et de prendre vraiment là de me poser, de respirer, parfois même de fermer les yeux et de me concentrer sur... tous mes sens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, après je rouvre les yeux, qu'est-ce que je vois, et ça permet de s'ancrer dans l'instant présent, je trouve, et de vider un peu le cerveau de ce qui est un peu à des autres pensées qu'on peut avoir. Et seulement une fois que ça c'est fait, aussi regarder le cheval, comment il a l'air de se sentir à ce moment-là, et ensuite, ok, on commence la séance. Et prendre vraiment ce temps au début, pas de rusher, d'arriver et de « Ok, le cheval est dans la carrière, ok, on y va, c'est parti, on fait la séance tout de suite. » Alors que nous, on est déjà peut-être dans un état assez haut au niveau de nos émotions. Donc prendre ce temps-là. Et après, pendant la séance, si je sens que moi ou le cheval, on monte trop haut dans les émotions, je dis « Ok, on fait une pause. » Ok, je te mets on arrête la séance, c'est fini, on met un peu de bouchon de foin, on sort, on analyse, on réfléchit à ce qui s'est passé, est-ce que je me dis, d'accord, je vais faire plutôt ça comme ça, on va essayer différemment, ou est-ce que là je sens que pour aujourd'hui c'est fini, de toute façon ça sert à rien, et accepter aussi que parfois on commence la séance 5 minutes, et puis en fait c'est mieux qu'on arrête là, aujourd'hui, et qu'on reprendra un autre jour, accepter. Ça, que parfois, on a des plans aussi dans notre tête. Aujourd'hui, mon objectif, c'est ci, c'est ça, c'est ça. On va progresser. J'étais à l'étape 3, je vais faire l'étape 4, l'étape 5. Puis qu'ensuite, on vérifie, mais que l'étape 2, ça va pas. Et accepter ça. Je pense aussi, c'est à force de le faire qu'au début, c'est difficile. Mais que à force de le faire, je pense notre cerveau accepte aussi ça, et puis on change de manière de voir les choses et on se détache un peu de, enfin, moi personnellement, de ce qu'on a pu m'enseigner, que de toute façon il faut le faire, même si le cheval aujourd'hui ça ne va pas, de toute façon par exemple l'obstacle il faut qu'il aille le sauter, c'est tout. Et arriver à se détacher de ça, qu'on nous a enseigné plus jeune, donc ouais. C'est ancré aussi. Réussir à se détacher de ça et de se dire non, bah c'est pas aujourd'hui, bah c'est pas grave, ça sera demain ou après-demain.
Ouais, puis, cette recherche d'un résultat concret, ouais. et toujours être dans la progression.
Oui, ouais, ouais.
Et ce côté, la gestion des attentes en R+, où il faut accepter parfois de reculer pour mieux avancer, et peut être vachement difficile, ouais.
Exactement, oui, oui. Et c'est ça, et des fois on est super content, on voit qu'on a fait une séance, ça s'est super bien passé et tout ça. Et on revient, et moi j'avais du mal avec ça au début, de... Ben voilà, de devoir des fois repartir en arrière alors que je pensais qu'une étape était que c'était bon,
ouais,
ou que c'est ok, c'est acquis, et on revient en fait, on se dit mais non, en fait pas du tout. Pas du tout acquis. Donc ouais, ça a été, je pense, quelque chose de difficile à gérer pour moi au début. Je ressentais beaucoup de frustration à ce moment-là, mais oui, je pense que c'est le temps et la pratique, et être bienveillant envers soi-même aussi, et accepter qu'on ressent des émotions. Après, il y a une chose aussi que je faisais plus sur la fin, et que j'ai fait aussi quand je coachais bénévolement des jeunes en clicker training avec les chevaux, c'est qu'à la fin de la séance, c'était, on se posait trois questions. Qu'est-ce que j'ai aimé que mon cheval a fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai aimé de ce que j'ai fait aujourd'hui? Et dans quoi est-ce qu'on pourrait progresser pour la prochaine fois? Mais du coup, de l'aborder de manière positive, finalement, ouais. Et de, même si la séance, au final, on en ressort avec peut-être une émotion un peu négative, de frustration et tout ça, de réussir à trouver des choses qui sont bien passées pendant la séance.
Ouais.
Et j'ai essayé de faire ça régulièrement, et même avec les enfants ou les personnes que je coachais bénévolement. Et je trouve que ça aide beaucoup, finalement, de nous forcer à voir le positif. Et ensuite, on le voit de manière plus... C'est plus facile après.
Oui.
Je trouve que voilà.
Plus on le pratique, voilà. Plus ça se développe.
C'est ça, on exerce en fait le cerveau à penser différemment, à arrêter de se concentrer sur le négatif, et de plutôt dire, ben oui, ben ça s'est pas bien passé peut-être, mais de mettre un petit peu de côté, de dire, mais ça, il a fait ça à mon cheval, et ça c'était vraiment chouette. Et moi, j'ai réussi à faire ça alors que d'habitude, j'y arrive pas. Et de, oui, bon, ben ça s'est pas bien passé, ben qu'est-ce que j'aimerais... Comment moi j'aimerais progresser la prochaine fois.
Ouais. Et c'est vrai que de toute façon, on a cette tendance à être toujours focalisé sur le négatif. Ça, c'est un fonctionnement naturel aussi, de se focaliser sur ce qui va pas, ce qui peut être source de danger, etc.
Oui.
Mais en même temps, avec nos chevaux, on est là pour profiter, donc, et je trouve ça intéressant de reformuler ce truc. De pas dire qu'est-ce qui n'est pas allé, mais qu'est-ce que j'aimerais faire évoluer.
Oui.
Et on change vraiment l'angle du regard.
Exactement.
Tout en gardant cet objectif de progresser, en fait.
Oui.
On reste pas, ok, c'était bien, et puis je m'arrête là. Non, mais ça nous donne envie de continuer, et ça nous donne des objectifs de progression.
Exactement.
Sans rester sur ce qui n'a pas été. Enfin, oui. Voilà.
C'est toujours...
Sur les formulations, quoi.
Exactement. C'est aussi, et puis pour voir la progression, moi, au bout d'un moment donné, j'ai commencé à filmer mes séances. Et c'est vrai que c'était chouette, parce que je gardais tout ça, et quand des fois je me disais, mais en fait, on progresse pas, et je regarde les séances d'un mois en arrière, je me dis, merci, en fait, on a progressé. Et rester concentré là-dessus, sur le progrès, et pas sur vraiment le résultat final qu'on aimerait atteindre. Arrêter de se comparer continuellement aux
ça,
autres.
Ça, c'est dur.
Ouais, ça, c'est compliqué. De se comparer aussi ce qu'on a vécu avec d'autres chevaux. Parce que voilà, il y a d'autres chevaux pour lesquels il y a des choses qui sont extrêmement simples. Et pour d'autres, que ça va prendre voilà, des années d'entraînement avant d'arriver au même résultat. Et d'accepter ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'astuces magiques. Mais voilà, des petits... voilà ce que j'ai pu dire. Des petits conseils qui, moi, m'ont aidé un petit peu là-dedans. Et aussi de se laisser le temps de changer, d'arriver à changer de vision, que ça se fait pas du jour au lendemain. Et ouais, être bienveillant avec soi-même aussi.
Et du coup, là, ça t'a amené sur quelle vision et sur quelle évolution ensuite?
Donc ensuite, j'ai continué à explorer énormément à pied avec les chevaux. Donc j'ai commencé aussi à faire pas mal de balades en liberté avec eux. Après, je me suis aussi penché un peu sur l'exploration du mouvement. J'avais énormément de chance parce que les chevaux étaient dans des espaces très très grands, mais clôturés. Ouais. Donc, on avait cette sécurité-là, ce qui fait que je pouvais partir en liberté avec eux, explorer. Ils avaient une petite forêt dans leur enclos. Et donc, je m'amusais à aller marcher dans les sous-bois, les faire passer au-dessus de troncs, de voir est-ce qu'on peut slalomer, sans avoir un objectif très précis, mais juste profiter ensemble.
Ouais.
Et ça, c'était des super moments. Et donc, voilà, j'ai exploré ça un petit peu avec eux. Ensuite, je suis allée aussi, donc j'ai lu le livre sur les signaux d'apaisement de Rachel Reisman.
Ouais.
Et à la fin de son livre, elle parle du scent work. Moi, je ne pensais pas que c'était possible de faire ça avec les chevaux, j'en avais jamais entendu parler. J'ai lu ce livre quand j'étais en voyage. Et donc, je n'avais pas à ce moment-là de chevaux avec qui tester, mais c'était vraiment dans ma tête, je me suis dit, il faut vraiment que j'explore ça.
Alors, c'est quoi le scent work?
Alors, le scent work, donc ce dont elle parle dans le livre, on va être vraiment sur le fait que le cheval va suivre une trace olfactive pour arriver à un sac avec une récompense alimentaire. Donc, on va en fait, le cheval va utiliser son nez pour suivre une trace et arriver à sa récompense. Donc, au début, l'idée, ça va être de reconnecter le cheval finalement avec son odorat.
Bah oui, parce qu'on... Autant on imagine bien les chiens qui sont connectés à leur odorat, autant on se dit pas que le cheval fonctionne sur son odorat.
Exactement. Et en fait, si. Mais dans le contexte des chevaux domestiques, ils l'utilisent très peu parce que finalement, la nourriture est toujours au même endroit. Et ils ont pas ce déplacement que les chevaux sauvages ou les chevaux féraux peuvent faire dans la nature. Ils ont pas, a priori, de gros prédateurs qui risquent de les dévorer. Ils ont pas non plus, différents troupeaux avec l'étalon n'a pas à vérifier que, voilà, il doit protéger son troupeau face à un éventuel autre étalon qui serait dans les alentours. Donc en fait, ils ont plus tant l'utilité de leur odorat dans la vie domestique.
Ouais.
Mais ça reste que c'est quelque chose qui est en eux, en fait.
Ouais.
Et moi, je sais que j'avais remarqué quand je me baladais en forêt avec les chevaux que un des trois chevaux, Benji, avait constamment son nez au sol. Et ça me faisait rire parce que je le voyais et je me disais, on dirait un chien qui suit une traque. Mais j'avais jamais entendu parler de scent work. Et après coup, je me dis, il aurait été mais incroyable au scent work parce que finalement, il utilisait quand même son nez comparé aux autres. Et donc, je trouve ça... Après, moi, je trouve ça fascinant le fait que ils aient un odorat vraiment développé qui leur permettent de suivre les traces. Alors que nous, on a un odorat vraiment très peu développé. Et voilà que eux, ils ont ça, ce super pouvoir-là, ce super nez. Et je trouve ça fascinant de leur proposer une activité où eux, ils ont vraiment plus de compétences que nous. Et que c'est eux qui nous guident.
Donc là, t'étais en voyage, donc t'étais partie des chevaux que tu t'occupais et t'as été ailleurs ensuite et t'as pu tester le scent work, c'est ça?
Exactement. Donc là, j'étais en voyage au Canada et ensuite, donc j'avais quitté les trois chevaux dont je m'occupais. Ensuite, on est parti en Nouvelle-Zélande où j'ai passé 2 mois avec Bex Tasker, donc de Positively Together. Et elle avait déjà donc les livres sur le scent work. C'était quelque chose qui l'intéressait, mais qu'elle n'avait pas pris encore le temps d'explorer avec ses chevaux. Quand je lui ai dit « Oh, j'ai lu ça, ça m'intéresse », elle m'a dit « Oh, bah, j'ai le livre de Rachel Reisman à ce sujet, qui est vraiment consacré à ça, Scent Work for Horses », qui est pas traduit encore, malheureusement. Et donc, elle explique vraiment dans le livre tous les bienfaits du scent work, ainsi que les étapes pour arriver, le cheval va trouver une récompense alimentaire très proche du point de départ, jusqu'à du man-trailing, en fait, en forêt. Oh,
du man-trailing, quoi, avec un cheval.
C'est incroyable. Je trouve ça fascinant. Et ça doit être génial à tester ça. Donc, elle expliquait un peu toutes ces étapes-là. Et donc, j'ai suivi ces indications dans le livre, donc avec 2 chevaux de Bex, avec des profils très différents. Un cheval qui se reposait beaucoup sur l'humain et qui prenait pas beaucoup d'initiatives. Donc pour lui, ça a été l'occasion justement de gagner en autonomie et de se détacher un peu de ce fait qu'il se reposait constamment sur l'humain. Et une autre jument avec elle, un caractère complètement différent, qui est plus très fonceuse, qui réfléchit pas beaucoup avant d'agir, et du coup lui permettre de se concentrer et de prendre le temps de se concentrer sur une odeur pour pouvoir la suivre. Et donc sur ces 2 caractères, finalement, ça a apporté quelque chose, le scent work. Et je trouve que pour l'humain aussi, c'est génial un peu de laisser le cheval prendre les rênes, son mauvais jeu de mots, de l'activité qu'on fait avec lui. Et de vraiment, on met en place l'environnement, voilà, on place donc ce qu'on appelle le smeller au sol, qui va être un tissu comme un petit tapis en fait, sur lequel on va marcher vraiment piétiner avec nos chaussures. Ouais. Ensuite, on va faire des tout petits pas et placer, cacher quelque part le sac, donc qui va avoir des trous pour laisser passer les odeurs, avec à l'intérieur une récompense alimentaire qui est extrêmement attrayante pour le cheval. Faut pas que ça soit juste des bouchons de foin pour le coup. On va aller sur des pommes, des carottes, quelque chose qui a de l'odeur, surtout au début quand on apprend au cheval à faire cette activité. Et donc le cacher, donc l'idéal c'est du sable, mais ça peut se faire aussi dans l'herbe, en mettant un petit peu de touffe d'herbe au-dessus. L'idée c'est que le cheval ne le voit pas dès le début, qu'il n'utilise pas sa vue, mais vraiment son odorat. Donc le cacher très proche du point de départ au début, pour que le cheval associe la présence du point de départ du smeller à une récompense alimentaire cachée très proche, et qu'au fur et à mesure, il se rende compte qu'il peut utiliser son nez pour retrouver cette récompense. Et donc, j'ai vraiment vu, notamment pour le cheval qui se reposait beaucoup sur l'humain, et un changement dans son comportement quand on faisait cette activité-là. Donc, on le faisait dans une parcelle qui n'était pas occupée et pas fréquentée par d'autres animaux. Mm-hmm. Donc, ce qui est recommandé parce que il faut pas qu'il y ait trop d'odeurs dans cette parcelle pour simplifier le travail du cheval, en tout cas au début. Et donc, on allait là, et dès qu'on allait là, il savait, il voyait préparer, j'avais toujours un peu les mêmes, mon seau avec moi, le sac et tout ça, donc il me voyait préparer, et je le voyais vraiment attendre qu'une chose, c'est que je vienne le chercher, et qu'on entrait dans l'espace, et qu'il partait presque tout seul, moi j'étais presque derrière, alors que d'habitude, voilà, c'est un cheval qui attend vraiment beaucoup sur lui. Ouais. Donc là, j'ai vraiment vu le changement pour lui, et c'était vraiment chouette à voir, et cette motivation et cette reconnexion à son odorat. Alors, on les voit vraiment nez à terre avec les naseaux qui bougent, qui prennent les odeurs. Et la satisfaction qu'ils ont quand ils trouvent le sac, quoi. C'est vraiment chouette.
Vraiment, dans leur comportement, tu vois que ça change quelque chose, quoi.
Ouais.
C'est incroyable.
Et puis, c'est génial aussi parce que c'est une activité qu'on peut finalement faire avec tous les chevaux. Mmh. Parce que voilà, on est sur du pas. On n'est pas sur quelque chose de très demandant physiquement. Mmh. Mais demandant quand même au niveau de la concentration et le fait d'utiliser son nez. Et ouais, au niveau autonomie du cheval, là, c'est super parce qu'on est vraiment sur... Ok, c'est toi le héros de ce qui est en train de se passer. Ouais. Nous, on est là, on suit, et on a préparé l'environnement pour que ça se passe bien. Mais sinon, on ne doit rien donner comme indication à l'animal. Je me concentrais pour ne pas regarder le sac.
Oui, voilà, ne lui donne pas d'indication avec ton regard.
Exactement, parce que eux, ils sont très très bons pour détecter les moindres signaux par rapport à notre positionnement, etc. Donc, c'est un gros travail aussi sur l'humain d'arrêter d'essayer de tout contrôler, de tout d'aider le cheval constamment. Non, là, c'est toi qui fait, et moi je suis là avec toi, mais je te donne pas d'indication. Et donc c'est vrai qu'au début, dans les premières tentatives, voilà, c'est des chevaux qui ont été entraînés au cliqueur, qui ont déjà mis leurs pieds sur des cibles au sol, des tapis et tout ça, donc bon, eux, ils mettaient leurs antérieurs dessus, puis ils me regardaient, genre, j'ai bien fait, là c'est bon, donne-moi les carottes. Et donc en fait, ça leur a pris du temps, vraiment, de comprendre qu'ils peuvent mettre leur nez au sol, parce que c'est vraiment pas une attitude qu'habituellement on va énormément renforcer, finalement.
Donc, oui, non, mais c'est vrai que les tapis au sol, on leur apprend à mettre les pieds dessus, à surtout pas y aller avec le nez, souvent, donc.
Ouais.
Là, c'est l'inverse.
Et là, c'est l'inverse. Mais ouais, je trouve que ça peut prendre un peu le temps au début, ça demande un peu de patience, parce que justement, c'est pas quelque chose qu'on a renforcé par le passé, donc il faut que le cheval ose aussi tester de nouvelles choses. Mais une fois qu'ils ont compris, c'est super.
Ouais.
C'est vraiment, ça sort de, je trouve, complètement de la dynamique des activités qu'on a l'habitude d'avoir avec nos chevaux.
Ouais.
On est vraiment sur quelque chose de très différent. Et c'est un enrichissement exceptionnel pour les chevaux, en fait.
Ça les fatigue comme les chiens après? Tu sens que c'est demandeur ou pas?
Je pense que oui. Après, comme j'ai fait ça pendant seulement un mois, et moi aussi je tâtonnais, et voilà, au début, je pense que, voilà, j'ai pu faire aussi des erreurs. J'ai pas vraiment remarqué ce côté fatigue, c'était plus parce que la traque était relativement courte.
Oui.
Donc moi, j'étais vraiment juste j'étais arrivée à la fin à quelques mètres. Donc on n'était pas vraiment sur suivre une traque pendant plusieurs minutes. C'était très court. Mais en effet, je pense que si on arrive par exemple à du man trailing où le cheval suit une traque pendant vraiment plusieurs minutes, une dizaine de minutes, je pense que oui, on peut avoir un peu le même effet qu'avec les chiens finalement.
Puis ça peut être intéressant sur un cheval qui est en réhabilitation et tout ça. Même un cheval qui peut pas bouger beaucoup, ça peut être
ah oui, tout à fait
intéressant, quoi.
C'est, je pense que c'est vraiment super intéressant. Et voilà, le cheval est vraiment en mode recherche, quoi. Mm. Et ça, on sait que ça active plein de... Il n'y a que du bon, en fait, là-dedans. Ouais.
Et toi, derrière, ça fait comment, les émotions?
Alors, au début, c'est vraiment ce lâcher-prise, là, que j'avais... Le lâcher-prise, c'est quelque chose sur lequel j'avais travaillé déjà depuis longtemps. Mais là, on est à un niveau encore au-dessus, quoi, de vraiment... je suis le cheval, je lui donne vraiment aucune indication et je fais juste le suivre. Et même s'il part dans la mauvaise direction... je n'interviens pas.
Oui.
Donc, c'est très demandant aussi. Mais voilà, je trouve ça super intéressant à creuser comme idée. Et voilà, je pense que quand on est dans une approche comme ça avec les chevaux, on veut leur donner plus d'autonomie, on veut que ça soit un moment agréable qui passe avec nous, on veut avoir moins de micro-management, là, micro-contrôle de ce que fait le cheval. Je trouve que c'est une super activité à explorer. Après, voilà, au début, on commence par des sessions vraiment très, très courtes, de quelques secondes, parce qu'on veut qu'il y ait cette association avec le smeller au début. Donc, c'est bien, parce que nous aussi, c'est une séance très courte pour nous. Donc, oui, je pense que c'est bien, parce que de toute façon, on est obligé de le faire progressivement. Donc, nous, ça nous apprend aussi, progressivement, à lâcher prise et à laisser notre cheval aller.
Et du coup, à la fin, c'est toi qui lui donnes la récompense qui est dans le sac?
Alors, à la fin, donc en général, les chevaux, ils vont naturellement avoir un comportement quand ils vont trouver le sac. Donc là, les chevaux que j'entraînais, ils frottaient leur museau sur le sac. Et donc là, moi, c'était mon signal de « Ok, ils l'ont vraiment trouvé ». Donc là, en fait, j'y vais, j'ouvre le sac. Et donc, j'ai testé plusieurs options. Au début, j'avais ouvert le sac et ils mangeaient dans le sac, mais c'était un petit peu compliqué. C'est ce qu'elle préconisait dans le livre, mais avec la pochette qu'elle, elle utilisait. Ouais. Moi, j'avais juste pris un sac, les sacs fraîcheur, là où on met les légumes dedans, où il y a des tout petits trous. Faut vraiment qu'il y ait des petits trous. Parce que justement, bah, si on entraîne dans la carrière, dans du sable, bah, on veut pas forcément que le sable rentre dedans. Et voilà. Donc, je trouvais que le sac fraîcheur, c'était pas mal, mais n'était pas aussi ergonomique que, elle, je pense, la pochette qu'elle utilisait, où c'était vraiment une pochette plus fermée, avec un petit endroit, avec un filet, en fait. Donc elle, ce qu'elle préconisait dans le livre, c'était que quand le cheval trouve la récompense, on le prend et on l'ouvre et il mange à l'intérieur du sac. Moi là, c'était pas possible avec le sac que je faisais, donc ce que je trouvais le plus simple, c'était encore de vider le contenu de la récompense au sol. Moi, j'entraînais sur de l'herbe. Donc je trouvais que c'était le plus facile parce que vraiment je pouvais vider, il mangeait et c'était bien comme ça, parce que quand ça restait dans le sac, il y avait un peu ce côté frustration, des fois, de n'arriver pas à atteindre
tout. Galère,
un peu galère. Là, il faisait il mangeait sa récompense à même le sol, qu'on a pu, on a pu. Donc, il n'y a pas trop le côté frustration qui entre en jeu. Donc, pour moi, ça a été le plus simple. Après, je pensais à tester.
Oui.
En fonction du cheval, en fonction de la pochette qu'on utilise, et puis voir ce qui fonctionne le mieux, finalement.
Ouais. Et du coup, c'est quoi le premier truc que tu conseillerais de faire pour tester le scentwork? Ou tester l'odorat du cheval de manière plus générale.
Ouais, alors du coup, moi, j'ai commencé par un peu des jeux olfactifs qui ne sont pas directement du scentwork et du suivi de traque. Donc, j'ai proposé... donc, elle appelle ça, je pense, l'enrichissement olfactif. Donc, on va être vraiment sur... On va emmener le cheval dans un endroit où il se sent bien, avoir une autre source de nourriture, de l'eau, un fil à foin, et avoir placé à l'avance des objets dans cet espace, et sur un des objets, dans un premier temps, mettre une odeur dessus. Donc moi, je sais que j'avais frotté du persil, je pense, sur un tissu, et ensuite quitter l'espace, vraiment sortir de l'espace pour pas que l'on intervienne, et laisser le cheval explorer. Et donc on voit vraiment, donc moi j'avais mis, je sais plus, 3 ou 4 objets, dont une serviette avec l'odeur du persil dessus, donc on voit qu'il va explorer les objets, et quand il tombe sur la serviette, il va vraiment... passer du temps dessus, voir au niveau de ses naseaux qu'il se passe des choses, et frotter le museau dessus, pour ensuite revenir aux autres objets, et puis revenir à la serviette avec l'odeur. Et moi, personnellement, l'odeur du persil, je la sentais vraiment pas fort sur la serviette. Ils disent de pas mettre beaucoup. Pareil que si on utilise des huiles essentielles pour faire ça, qu'il faut vraiment le diluer avant. Pas que ce soit des odeurs trop agressives, parce que sinon, ils vont même pas y aller, ils le sentent de trop loin.
Éviter, carrément.
C'est ça. Donc j'avais commencé avec ça, et ensuite j'avais proposé aussi quelques jeux, un peu les jeux type puzzle, qu'on peut proposer, donc les balles à faire rouler pour faire tomber les récompenses. Bon, ça après c'était des jeux qu'ils avaient déjà fait par le passé, donc ils connaissaient déjà le concept, mais je leur ai reproposé pour un peu réactiver ce côté utiliser son nez. Et aussi ce que j'avais fait, c'était enrouler dans une serviette des récompenses alimentaires pour que le cheval ait à pousser avec son museau la serviette pour attraper les récompenses.
Ça, ils y arrivent ?
Ah ouais, aucun problème. C'était très facile. Après, je suis tout de suite partie sur le sandwork. Il y aurait peut-être d'autres choses à faire encore au niveau des jeux puzzles, l'enrichissement. Mais voilà, c'est important pour moi. J'ai fait au début, je pense, les 3-4 premières séances là-dessus, sur l'enrichissement olfactif et des jeux puzzles sur l'odeur. Et je pense que c'est vraiment bien de faire ça avant, pour voilà réhabituer le cheval à faire ça et qu'il comprenne aussi plus facilement le fait qu'il faut qu'il utilise son nez.
Ouais.
Parce que sinon, on arrive sur quelque chose de complètement nouveau et il a pas du tout utilisé son nez. Je comprends pas en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Ouais.
Donc je trouve que ça a quand même aidé.
Oui, puis en soi, c'est des exercices intéressants pour le cheval, quoi. Même si on va pas sur le sandwork derrière.
Exactement, c'est de l'enrichissement. Oui, tout à fait. Je trouve ça super intéressant dans tous les cas, même si on veut pas aller sur du sandwork après. C'est il y a que du bonus, quoi.
Puis peut-être même nous de les observer, ça doit être super intéressant à regarder.
Ouais, exactement. De prendre aussi ce réflexe d'observer, de préparer l'environnement pour notre cheval. De le mettre là comme si c'était un peu c'est ton parc de jeu, quoi. On sort de là et puis on observe vraiment. Au début je devais vraiment m'éloigner loin pour pas que eux ils soient tentés de revenir à la barrière et me dire qu'est-ce qu'on fait, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et vraiment leur dire non là c'est toi, c'est ton truc, et de les observer, de voir comment ils réagissent, de filmer aussi, voir un peu les différences entre les chevaux. Je trouve ça fascinant. Et c'est une autre façon encore d'être avec nos chevaux, quoi, juste de prendre le temps de les observer en leur proposant des choses sans intervenir.
Ouais. Sans chercher à faire quelque chose.
Oui, à leur faire quelque chose et juste voir leur réaction et observer.
Ouais. Ouais, puis c'est marrant, tu dis, ils ont quand même cette habitude que quand l'humain est là, on va faire des choses avec l'humain.
Ah oui.
Et pas forcément aller prendre leurs propositions, leurs...
C'est ça.
Leur propre décision, quoi.
Ouais. Je pense que ça pourrait être aussi une bonne manière d'introduire un travail avec le cheval ou de la plus d'autonomie.
Ouais.
Pour des chevaux, peut-être, qui sont très renfermés, un peu en impuissance acquise, qui vont être complètement fermés, leur proposer des activités comme ça, où du coup, l'humain n'est pas forcément présent dans l'espace.
Ouais.
Et peut-être aussi que ça va un peu leur permettre de s'ouvrir plus facilement. Pour après qu'ils arrivent à s'ouvrir dans l'échange quand on est avec eux et que là on leur propose des choses. Je pense que ça peut aider aussi.
Ouais. Et du coup, là t'en étais où avec ton travail global avec les chevaux ou avec le renforcement positif? Est-ce qu'il y a des choses aussi en dehors du sandwork qui ont pu évoluer à ce moment-là?
Alors donc quand je faisais le sandwork, donc j'étais chez Bex en Nouvelle-Zélande, et à ce moment-là aussi je travaillais pas mal tout ce qui est soins coopératifs. Et là, c'était notamment sur la prise du vermifuge. Donc voilà, on avait une pouliche qui était paniquée à l'idée de prendre le vermifuge. Elle n'avait pas encore eu le temps de l'entraîner vraiment à ce niveau-là. Donc voilà, une jument qui se cabrait, qui était vraiment en fuite et défense à ce niveau-là. Donc elle m'avait dit, si ça t'intéresse le soin coopératif, tu peux travailler ça avec elle. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, on est parti au début très progressivement, parce qu'on partait loin avec elle. Donc, sur une seringue vide, lavée, avec juste ciblé, touchée avec le museau. Mis en place aussi un start button où elle venait vraiment poser sa tête contre ma main. Ouais. Et qu'ensuite, je sortais la seringue et que tranquillement, on allait, est-ce que je peux approcher la seringue de la tête? Est-ce que je peux la toucher au niveau de la tête, du museau? Est-ce qu'on peut insérer légèrement la seringue dans la bouche? Et très progressivement. Et ça aussi, ça a été très intéressant parce que on est parti d'une jument qui était vraiment stressée à la vue de la seringue, à une jument qui même au début était un peu trop enthousiaste, donc qui me croquait la seringue, vraiment oui c'est ça qu'il faut faire, et donc du coup ça on a dû réadapter aussi pour vraiment juste qu'elle soit dans le poser sa tête et accepter que j'approche moi la seringue sans que elle vienne dévoré. Et donc voilà, encore très rapidement, on a été sur, on a réussi à changer l'émotion à ce niveau-là. Et puis voilà, tranquillement, on a évolué avec des seringues qui avaient l'odeur du vermifuge. Et le jour donc où c'était nécessaire de donner le vermifuge, donc le vrai, j'étais pas encore arrivée à la fin du plan d'entraînement, c'est-à-dire au moment où je suis vraiment capable de mettre la seringue complètement en bouche et de garder cette position, de pousser l'air à l'intérieur de la bouche. Et pendant 15-20 secondes,
ouais.
J'avais pas encore la durée. J'avais la seringue en bouche, le fait de mettre un peu d'air, mais j'avais pas ces 15 secondes-là. Mais voilà, c'était le jour où on devait vermifuger. Et donc, en fait, donc Bex l'a fait. Et donc, on a une jument qui, un petit peu reculée, a émis un peu... Voilà, on avait quelques signaux, un peu une encolure relevée. Ouais. Mais rien à voir par rapport à la défense qu'elle pouvait avoir avant. Et le lendemain, je suis revenue, on a repris notre entraînement et aucun problème, quoi. La seringue, pas traumatisée pour dessous, quoi. Et c'est là aussi où je me suis dit, ah ouais, c'est, on peut, en prenant le temps, en étant régulier, en faisant vraiment des petites séances, parce que les séances que je faisais, c'était aller 3 minutes maximum, et ben, on peut aboutir à un super résultat, quoi, même si on part de loin, finalement. Donc oui, on a travaillé ça beaucoup. Et ensuite, là, j'ai eu la chance aussi, quand j'étais chez Bex, d'entraîner plein d'espèces, d'animaux différents. Et ça, c'était super enrichissant parce que je trouve que ça nous permet un peu de penser différemment. Parce qu'on entraîne différemment un cheval, qu'on va entraîner un lapin, qu'on va entraîner une poule.
Oui.
C'est pas du tout les mêmes comportements. Et donc, on a les principes d'apprentissage qui sont les mêmes. Mais on va devoir vraiment s'adapter. Et ça, j'ai trouvé ça super enrichissant. Parce que on réfléchit un peu plus large, on sort de la boîte cheval, mais ce qui fait qu'un jour, on peut utiliser des techniques qu'on a utilisées avec les lapins. Tiens, mais j'avais fait ça avec les lapins, ça avait marché. Est-ce qu'on peut l'adapter au cheval? Et finalement, voilà, ouvrir le champ des possibles. Et oui, c'est toujours passionnant d'entraîner plein d'espèces différentes et de voir un peu les différences, tout en remarquant qu'en fait, on est toujours sur les mêmes principes d'apprentissage.
Et il y a eu une espèce que t'as préféré entraîner?
Alors, à côté des chevaux, donc après les chevaux, parce que ça reste...
les chevaux.
Ça reste les chevaux. Et ben, j'ai été très surprise par les lapins.
Ouais?
Ouais. J'ai trouvé que ils apprennent extrêmement vite. C'est super renforçateur pour l'humain, quoi.
Ça, c'est cool.
Ça, c'est trop bien. J'ai adoré parce que... Alors, toujours partant, déjà, pour l'entraînement. Il y avait aussi un environnement qui était adapté, c'est-à-dire qu'ils avaient deux espaces et je pouvais fermer parce qu'il y avait deux lapins. Mmh. Et du coup, je pouvais facilement en mettre un d'un côté à l'intérieur et l'autre à l'extérieur pour faire l'entraînement. Et donc ça a aidé aussi.
Ouais.
Et donc, ce que j'ai aimé aussi, c'est que les lapins, quand ils comprennent pas ou qu'ils en ont marre, ils s'en vont. Voilà, ça c'est fait. Ou alors c'est vraiment très clair, ou alors ils commencent à mordiller au bout de la chaussure et... Là, on sait qu'on n'est pas bon, on est un peu dans de la frustration, quoi. Mais ils intègrent à une vitesse. Donc moi, j'ai travaillé pas mal avec eux. J'ai exploré un peu le principe du backchaining.
Oui.
Donc le principe, ça va être d'apprendre le dernier comportement d'une chaîne en premier. Et ensuite, revenir en arrière, entre guillemets. Donc pour donner un exemple plus concret pour l'humain, c'est par exemple si on veut apprendre une poésie. Il serait plus efficace, en fait, d'apprendre d'abord le dernier paragraphe, puis ensuite l'avant-dernier paragraphe. Parce qu'en fait, c'est rassurant pour le cerveau parce qu'on va du moins connu vers le plus connu. Et où c'est renforçateur? Parce que au début, on apprend, donc c'est un peu compliqué, mais à la fin, c'est plus facile. Et en fait, on apprend beaucoup plus vite comme ça. Et donc, avec les lapins, j'avais créé comme un petit parcours d'agility pour eux, où, donc la fin, le but, c'était qu'ils soient debout sur une petite souche. Juste avant ça, ils devaient tourner autour d'un cône. Mmh. Donc au début, j'avais appris être debout sur la souche. Après, à part, j'avais appris tourner autour du cône. Et ensuite, j'ai fait tourner autour du cône plus la souche.
Ouais.
Et ensuite, on a rajouté le tunnel avant le cône. Et donc ensuite, on enchaîne en fait tous ces comportements-là et on arrive à avoir un lapin qui va faire le parcours sans qu'on lui dise rien finalement parce que l'objet, c'est le code. Donc il voit le tunnel, il sait qu'il faut qu'il passe dedans, il voit le cône, il sait qu'il faut qu'il tourne autour, il voit la souche, il sait qu'il faut qu'il se mette debout dessus. Mm. Et c'était chouette d'explorer avec les lapins, parce que déjà, au niveau de la frustration, on monte beaucoup moins vite avec les lapins en frustration. Mm-hmm. c'est aussi ben, moins dangereux, hein, finalement, qu'un cheval. Ouais. Hein, on n'est pas sur les mêmes enjeux.
On n'est pas sur les mêmes gabarits.
On n'est pas sur les mêmes gabarits du tout. Ça aussi nous apprend à faire des séances courtes, parce qu'on est aussi sur des animaux qui ont besoin de séances assez courtes, sinon ils décrochent. Et moi aussi, qui ai beaucoup coaché des enfants bénévolement dans le clicker training avec les chevaux, du coup, là, j'ai eu l'occasion de coacher les enfants avec les lapins, avec les moutons, eh bien, on a moins peur que les enfants fassent des erreurs qu'avec les chevaux. On est moins aussi à les micromanager, eux, parce qu'on sait qu'il y a moins de danger derrière aussi. On sait que le lapin, même si, à la limite, il leur monte dessus parce qu'il est un peu frustré qu'il veut accéder à la nourriture, c'est pas comme si c'est le cheval qui leur monte dessus.
Oui.
Ouais. Qui va les mordre, qui va leur marcher sur les pieds. Et donc, je trouvais aussi que, parce que quand on aidait les enfants à entraîner les chevaux, on est aussi beaucoup dans ce truc, bon, il faut quand même que j'encadre pas mal, l'enfant aussi, pour qu'il y ait, pour qu'on arrive au résultat escompté et qu'il soit en sécurité. Donc, on est aussi beaucoup dans contrôler la personne qui entraîne. Et voilà, les enfants, ben, ça reste des petits êtres qui apprennent et qui, des fois, ont leurs propres émotions, on peut avoir des gestes un peu brusques, un peu inattendus. Et donc, je trouve qu'avec les lapins, je me sentais beaucoup plus relaxe par rapport au fait qu'ils puissent faire des erreurs. Ben, oh, il part le lapin, bon ben, il part. Donc, c'est grave. Pour que ça soit plus simple. Avec quand même un animal qui est hyper intéressé dans l'interaction.
Ouais.
Donc, je trouvais que c'était... J'adorais faire ce coaching-là parce que je trouvais que moi, j'étais aussi très sereine. Et les enfants adoraient entraîner les lapins. Et on leur demandait, tu veux entraîner aujourd'hui poney, mouton, lapin? Ils se battaient pour avoir le lapin.
D'accord.
Voilà, c'était pas le poney, quoi. Et je pense que eux aussi ressentaient ce côté-là de, ben, ils ont plus de liberté pour tester aussi.
Ouais.
Ils sont aussi moins impressionnés par le comportement du lapin que du poney. Et puis, ils peuvent être directs. Parce que souvent, avec les poneys, on était dans du contact protégé avec les enfants.
Oui.
Alors, avec les lapins, ils pouvaient vraiment avoir ce contact direct dans l'enclos des lapins, finalement. Ouais. Et puis, oui, sur des petits parcours d'agility, c'est ludique aussi pour les enfants.
Ouais.
Chose qu'avec les chevaux, parfois, c'est un peu plus délicat à mettre en place. C'est aussi plus de, voilà, un parcours d'agility pour les chevaux. Ça va être aussi déplacer des plus longs à mettre en place que, hop, on jette le petit tunnel, là, on met un petit cône.
C'est sûr que mettre un tunnel pour un cheval, c'est pas le même travail, quoi.
C'est pas la même chose. Donc, pour plein de raisons, les lapins m'ont agréablement surpris et je pensais pas. Et moi qui ai eu un lapin plus jeune, ado, je me suis dit, mais si j'avais su que je pouvais faire tout ça, je me serais vraiment amusée, quoi.
Ouais. Ah, c'est chouette. Vraiment d'aller voir d'autres espèces et leur façon de fonctionner et puis de ramener des choses que tu peux appliquer aussi sur les chevaux derrière.
Oui, exactement, c'est super intéressant. Les poules aussi, c'est super, c'est difficile à entraîner parce qu'il faut un timing je dirais presque parfait pour que ça fonctionne. Et vraiment parce que les poules aussi, elles figent quand elles ont peur.
Ouais.
Très facilement. Donc réussir à créer vraiment l'environnement, c'est beaucoup d'anticipation pour que la poule soit à l'aise dans la zone d'entraînement. C'est un timing extrêmement précis et des séances extrêmement courtes. Ça, au début, on faisait des séances de 30 secondes. Donc après, on en faisait plusieurs avec une pause entre et on avait plusieurs poules qu'on entraînait aussi. Mais c'est impressionnant aussi ce qu'on est capable de faire finalement avec les poules. Là, je sais qu'aujourd'hui, Bex, bon voilà, on avait suivi ensemble une formation à ce niveau-là pour entraîner les poules. Et aujourd'hui, elle va dans les écoles avec ses poules et elle entraîne... donc, elles font des petits tours de magie où elles vont récupérer une carte, ou elles font des matchs de foot pour en pousser la petite balle de foot dans le mini but.
Excellent.
C'est super. Et c'est une manière aussi de montrer au monde ce qu'on peut faire. Et elle, par exemple, je sais qu'elle dit elle adore faire ça avec ses moutons et maintenant ses poules. C'est des animaux aussi qui sont un peu plus résilients par rapport aux chevaux, qui, quand on les emmène dans un endroit inconnu, avec des personnes inconnues, ça peut vite monter en émotion. Elle dit, ces moutons, résilience absolue, quoi.
Ouais.
C'est... ils arrivent dans l'espace, ils sont déjà en train de brouter souvent, ça se passe sur des terrains, les terrains de foot derrière les écoles.
Ouais.
Et à la fin de la séance, ben, y a quand même pas mal d'enfants qui viennent toucher. Et ils ont absolument aucun problème, aucun stress. Ils montent dans le van très facilement.
Mais mieux que les chevaux, en fait.
Bah oui. Donc, plus petit, plus résilient. Et on peut montrer énormément de choses aussi. Et puis, il y a ce côté un peu originalité. On peut entraîner. Et après, faire ce parallèle-là et dire, finalement, Mon cheval, tu l'entraînes globalement de la même manière que tu vas entraîner le mouton. On peut faire la même chose. Et les chiens, et qu'après faire du lien. Mais c'est vrai que c'est aussi des animaux avec lesquels parfois il est plus facile de montrer à l'extérieur que les chevaux, où là on va être sur de l'émotion parfois qui est un peu plus complexe à gérer dans des environnements variés. Après ça va dépendre, hein. Mais elle, en tout cas, c'est ce qu'elle a constaté. En ayant testé un peu avec les chevaux, avec les moutons, elle dit c'est clairement les moutons que ça a le moins d'impact au niveau émotionnel pour eux et que c'est plus facile.
La sensibilité du cheval et la taille que ça prend.
Exactement. Oui.
Ouais,
oui.
Pas évident. Et donc à ce moment-là, est-ce que avec les chevaux, où est-ce que t'en étais? Est-ce que t'as appris de nouvelles choses?
Alors quand j'étais en Nouvelle-Zélande, comme je l'ai dit avant, au Yukon, je travaillais en liberté tout le temps. Parce que j'avais remarqué que quand je remettais de l'alcool, je retombais sur d'anciens réflexes où je remettais très facilement de la pression. Et je retombais dans un schéma en renforcement négatif que j'avais dont j'avais choisi de m'éloigner. Et donc arrivée en Nouvelle-Zélande, j'avais reparlé de ça avec Bex et je lui avais dit « Oh, ça, j'aimerais bien quand même être capable de réintégrer l'alcool parce que c'est quand même un outil... »
Ça peut servir.
Qui sert, quoi. Mais voilà, réussir à l'intégrer sans aller tout de suite dans mon temps pression... Et donc on a travaillé ça ensemble. C'est vraiment pas facile, hein. Ça redemande malgré avoir fait du renforcement positif pendant déjà 2-3 ans, mais on revient vite hein, sur des vieilles habitudes. Donc c'est voilà, avoir déjà fait les choses en liberté, qu'avoir déjà un exercice qui est très très voilà maîtrisé par le cheval, et du coup avoir le licol, mais vraiment c'est juste presque un objet qu'on a dans la main, mais dont on ne se sert pas finalement.
Ouais.
Et voilà, se forcer à avoir toujours cette longe qui est longue, et quand on est amené à utiliser la pression, et ben voilà, savoir l'utiliser de manière intelligente, avec vraiment une pression très douce, très fine. Ça aussi, elle l'avait appris avec Alexandra Kurland, et j'ai trouvé que c'était quand même intéressant que ben des fois on est amené à utiliser la pression quand même si c'est pas forcément ce qu'on veut et l'objectif qu'on a. En tout cas que quand on est amené à l'utiliser, de l'utiliser de la bonne manière et pas que ça soit violent pour le cheval. Ouais. Et j'ai vu qu'avec ces chevaux, en effet, ils n'avaient pas de mauvaise association avec le licol.
Ouais.
Et que même si d'afois elle utilisait un peu la pression, elle l'utilisait vraiment d'une manière, donc la manière dont elle tenait la longe, dont elle serrait ses doigts sur la longe, parfois juste serrer un peu ses doigts sur la longe, ça suffisait, même avec une longe longue, quoi. Puis on avait fait des exercices aussi, elle me demandait de tenir le licol. Ouais. Et de, elle, mettre la pression sur la longe pour que moi, je ressente. Elle me dit, ah oui, en fait, juste serrer la main sur une longe qui est lâche, il y a une information qui passe. C'est léger.
Ouais, mais le cheval est super intéressant.
Ouais. Le cheval est capable de sentir ça. Donc, quand on voit après, des fois, des chevaux qui sont tenus vraiment serrés au niveau de la longe avec une pression, on se dit, mais ils doivent ressentir une telle pression au niveau de leur tête. Alors qu'en fait, ça peut être très, très doux. Voilà, ça a été intéressant aussi. De réapprendre et créer de nouveaux réflexes avec ça.
Donc en fait, après avoir déconstruit, t'as pris le temps de reconstruire.
Oui, voilà. Pris le temps de reconstruire. Après avoir déjà travaillé énormément en liberté, en renforcement positif, avoir déjà commencé à créer de nouveaux réflexes, et bien réintroduire des outils qui me semblent utiles. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, je réintégrerai pas le stick parce que aujourd'hui, j'en vois pas l'utilité.
T'en as pas besoin.
Mis à part mettre un bout de frite au bout, quoi. En faire une soupe. Mais finalement, je trouve le stick, on est vraiment dans quelque chose de, on va vouloir pousser le cheval et donc aujourd'hui, j'en ai pas l'utilité et je vois pas ce que ça peut apporter dans ma pratique.
Ouais.
Par contre, le licol, à un moment donné, on a besoin dans la vie du cheval.
Ouais, donc en fait, t'as eu ce questionnement finalement de maintenant, qu'est-ce qui est utile pour ma pratique, pour ma relation au cheval, pour sa vie globale? Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Parce qu'il y a beaucoup de l'humain qui va être important, en fait, dans ce... C'est tout au parcours, c'est vraiment beaucoup plus un travail sur l'humain qu'un travail sur le cheval.
Ah oui, je pense que c'est vraiment un travail sur l'humain. Déjà d'apprendre plus qui est l'animal cheval, déjà, de connaître ses besoins, de savoir lire aussi ses signaux.
Ouais.
Ça, c'est aussi, ça fait partie entièrement de la pratique en renforcement positif. Et je pense que si on le fait pas, on n'est pas vraiment dans une pratique en renforcement positif.
Ouais.
On a vraiment besoin de ça. Et je pense que même les personnes qui pratiquent le renforcement négatif, il faut cette lecture des signaux du cheval. Et ça, c'est vraiment un travail sur soi, de prendre le temps d'observer, de prendre le temps d'apprendre à reconnaître ces signaux-là.
Ouais.
Parce qu'on sait que chez le cheval, ça peut être tellement subtil.
Ouais.
Mais je trouve qu'une fois qu'on a appris à faire ça, ça change énormément de choses aussi dans notre pratique. On est beaucoup plus à même de réagir d'une manière adaptée et d'anticiper éventuellement de savoir lire le cheval pour éviter que ça explose.
Ouais.
Et se dire, mais ça sort de nulle part. Ben non, en fait, ça sort pas de nulle part.
Après, c'est subtil et en même temps, une fois qu'on sait les lire, on n'arrive plus à ne pas les voir.
Exactement. On les voit tout le temps. C'est clair. Ouais. Et oui, et ensuite faire ce travail-là sur soi, de déconstruire tous des réflexes, des apprentissages qu'on a, que ce soit même des pensées qu'on peut avoir, ou même corporelles, des habitudes corporelles qu'on a avec les chevaux, et prendre le temps, voilà, de tout reconstruire tranquillement à notre rythme et au rythme des chevaux.
Ouais, prendre le temps.
Prendre le temps. Mais je pense que c'est très important et réussir à se reconnecter de pourquoi on est avec les chevaux. C'est quoi notre objectif principal, en fait? Est-ce que c'est que dans 2 mois, mon cheval fasse du déplacement latéral? Ou est-ce que c'est, en fait, avoir une belle relation avec notre cheval? C'est quoi la priorité? Après, voilà, on peut avoir des objectifs. Mais c'est quoi la priorité? Et que quand on bloque un peu dans l'avancée de nos objectifs, réussir à se rappeler de, OK, c'est quoi que je veux vraiment avec mon cheval? C'est quoi ma priorité numéro 1?
C'est quoi le cœur de mon interaction avec mon cheval?
Voilà. Et je pense que pour tout le monde, l'interaction avec les chevaux, ce qu'on cherche en priorité, ça va pas être la performance, ça va pas être... Sinon, on ferait autre chose,
en fait.
On serait pas avec un être vivant, avec des émotions. Voilà, on achèterait une moto et puis on ferait... Voilà, c'est... Si on est avec le cheval, je pense que pour tout le monde, c'est avant tout pour l'interaction qu'on a avec eux et la relation.
Ouais.
Sinon, on ferait pas ça. Sinon, on serait pas avec les chevaux.
Oui, on cherche quelque chose de particulier avec les chevaux, c'est sûr.
Oui, enfin, je pense. Oui, je pense aussi. Et donc voilà, même si on a appris, je pense beaucoup d'entre nous ont appris plus jeune, on nous a mis dans cette optique de il faut de la performance, il faut aboutir à quelque chose de concret, d'impressionnant et tout ça.
Ouais.
Essayer de se reconnecter un peu à... Je pense l'enfant qui est en nous et qui est juste content de toucher un poney et puis de sentir ses gros naseaux tout chauds contre nous et de le regarder et de le trouver beau et voilà, de réussir à se reconnecter à tout ça. Et oui, c'est du travail, ça prend du temps, mais ça en vaut la chandelle.
Ouais. Et du coup, là maintenant, t'en es où et où est-ce que t'as envie d'aller alors avec tout ça?
Oui, alors maintenant, donc je vais retourner au Canada très prochainement. On va prendre le temps de s'installer parce qu'on va être dans une autre province, donc on va partir en Alberta, qui est quand même une province avec énormément de chevaux. Et donc là, mon objectif, ça va être déjà de continuer à entraîner des chevaux. Donc j'ai pour objectif d'avoir mon propre cheval, mais je sais que voilà, ça va prendre du temps, il faut d'abord que je m'installe. Et puis que je trouve une structure et un endroit où je puisse avoir un cheval qui va être bien dans son environnement. Ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Donc je sais que ça va prendre du temps. Après, je sais que même dans mes voyages, les chevaux ont toujours été là. Même quand je pensais que j'allais faire une pause. Non, ils étaient toujours là quelque part et j'ai toujours été avec eux. Donc, je m'inquiète pas trop à ce niveau-là. Et donc après, dans un futur plus ou moins proche, j'aimerais moi-même aider les personnes, les propriétaires de chevaux à développer une belle relation avec leur cheval grâce au renforcement positif. Et j'aime aussi beaucoup le côté transmission auprès des enfants et des adolescents. Et je pense vraiment que éduquer les enfants d'aujourd'hui à ces nouvelles pratiques et qu'ils aient tout de suite ce regard-là, qu'ils aient pas tout ce travail à faire de déconstruction comme nous finalement.
C'est clair.
De tout de suite leur transmettre du vrai savoir par rapport aux besoins du cheval et qu'ils comprennent eux comment le cheval apprend. Parce que, en fait, moi, comment le cheval apprend, je l'ai appris là, il y a quelques années.
Pas pareil.
C'est quand même depuis 5 ans que je fréquentais des chevaux, et je ne savais pas comment ils apprenaient. On se dit, c'est un peu fou, quoi. Ouais. On n'ait jamais appris ça. Et en fait, on n'ait jamais compris pourquoi, quand je serre mes jambes, le cheval, et que le cheval avance, que je les desserre, pourquoi ça marche.
Oui.
En fait, je ne savais pas. C'était juste que ça marche, c'est comme ça.
Ouais. C'est comme ça qu'on fait. Ou on donne des coups de talon aussi. Hein.
Oui, voilà. Et voilà, leur transmettre ça. Et j'ai pu aussi l'expérimenter déjà de manière bénévole. Et j'adorais, et puis je trouve que le rapport des enfants aux chevaux, il y a moins ce côté de « il faut qu'ils m'écoutent parce que sinon ça montre qu'ils me respectent pas ». Voilà, il n'y a pas ce côté-là parce qu'ils n'ont pas tout ce passé, finalement. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Donc voilà, si j'arrive à travailler aussi avec les enfants dans ce sens-là, ça serait très chouette.
Un joli projet.
Un très beau projet. Donc voilà, on verra une fois arrivé au Canada comment ça se profile, mais c'est l'objectif.
Ouais. Et du coup, on va peut-être pas tarder à conclure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tenait à cœur de transmettre aux auditrices et aux auditeurs de ce podcast?
Oui, alors je pense que restez connectés à pourquoi vous êtes avec votre cheval. Essayez, même si au début c'est difficile, de voir le positif dans la situation. Parce que je pense que quand on est propriétaire de cheval ou qu'on fréquente des chevaux, il y a toujours des choses qu'on aimerait changer, que ce soit dans le mode de vie dans lequel est notre cheval, que ce soit dans ce qu'on arrive à faire avec eux, que ce soit dans les pathologies que peut avoir notre cheval. On va toujours avoir des choses qui nous travaillent et qu'on aimerait changer. Mais essayer de voir le positif, tout ce que notre cheval nous apporte, tout ce que nous, on leur apporte.
Ouais.
Et voilà, et si on peut faire du changement pour améliorer des choses, oui, le faire. Mais voilà, ne pas être fataliste par rapport aux défis qu'on peut rencontrer avec notre cheval. Et essayer de revoir le côté positif des choses.
Ouais.
Tout ce que ça nous apporte et ce qu'on peut leur apporter.
Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce que j'ai fait dans ma séance? Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce que mon cheval a fait dans la séance? Et qu'est-ce que j'aimerais faire la prochaine fois?
Exactement.
C'était ça, hein, les trois questions.
Ça, comment on peut progresser pour la prochaine fois. Ouais. Ouais, je trouve que c'est une belle manière concrète de le faire.
Ouais.
Et après l'avoir testé, je trouve que pour moi ça marche. Et je trouvais aussi, je l'ai fait beaucoup avec les enfants.
Ouais.
Et alors ça leur demande de la réflexion, hein, des fois.
Ouais.
Ouais, c'est surtout pour trouver, je trouve le plus dur c'est de trouver ce que nous on a fait de bien.
Oui.
Ça montre à quel point on est dur avec nous-mêmes, finalement. Parce que le cheval, on va toujours trouver quelque chose quand même, même si des fois c'est un petit peu difficile. La progression, ça c'est très facile. Ça, on a toujours des choses qu'on sait qu'on veut sur lesquelles on sait qu'on veut progresser. Bah alors trouver quelque chose que nous on a bien fait, bah, ça demande du travail et de la réflexion. Et ça montre qu'on doit être plus bienveillant avec nous-mêmes et savoir voir les choses qu'on fait bien.
Mais ça, c'est bénéfique au-delà de nos relations avec les chevaux.
Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est une philosophie de vie qu'on peut appliquer sur plein de choses. Et en Nouvelle-Zélande et au Canada, j'ai même vu des familles qui, avant le repas, avaient une sorte de rituel. Et c'était de partager quelque chose pour lequel ils étaient reconnaissants. Donc c'était de partager quelque chose pour lequel ils étaient reconnaissants. Quelque chose qui leur est arrivé dans la journée. Pour lesquels ils étaient reconnaissants. Alors ça peut être « je suis reconnaissant d'avoir mangé des spaghettis à midi ».
Ouais.
Voilà, des choses très simples. « Je suis reconnaissant d'avoir eu un beau rayon de soleil aujourd'hui ». Après, et puis après, il peut s'être passé des choses beaucoup plus dans la journée.
Oui.
Et puis ça commence avec une chose, et après, ça, on voit que les enfants, même les adultes, trouvent plus de belles choses qui s'est passées dans la journée.
Ouais.
Puis ça déclenche après des discussions à table, mais sur des choses positives.
Ouais.
Et je trouvais que c'était un beau rituel.
Ouais, c'est chouette.
À faire. Et ça fait vraiment le parallèle avec, ce côté de se questionner sur les choses positives qui sont passées après la séance avec notre cheval.
Ouais, carrément. Merci Mélanie. Est-ce que tu as envie de rajouter une dernière chose?
Avec plaisir. Eh bien, merci à toi de m'avoir accueillie. Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer tes chevaux. Et merci pour ça aussi. C'était vraiment sympa.
Ouais, c'était très chouette. Et on a fait plein de trucs, tu m'as donné plein de nouvelles idées, donc c'est chouette aussi.
Oui, j'ai hâte de voir la suite, que tu me partages
plein de
tout
choses
ça.
À tester.
Exactement.
Ben, merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés, et à très bientôt.
Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt !